Bonjour, ici Pierre-Étienne.
Et Jonathan.
Et bienvenue à la table d'hôte. Au menu cette semaine, le chocolat. On savoure cet aliment au lait, noir ou blanc, mais on ne s'en lasse jamais. Avec notre invité, on découvre avec vous les dessous du métier et même certains de ses secrets. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la table d'hôte, le podcast qui est dédié au monde de l'alimentation et à la gastronomie. Je suis toujours en présence de Jonathan Ménard, mon comparse. Bonjour.
Salut Pierre-Étienne.
Salut. Aujourd'hui, on enregistre dans ton magasin parce qu'il y a de la rénovation chez toi.
Exactement, c'est ça. Habituellement, on enregistre la plupart du temps chez moi. Là, on fait ça dans le magasin. Fait qu'au lieu d'entendre des bruits de marteau et de tout ça, ben, on entend des bruits de ventilation et de compresseur.
Eh bien, c'est ça, c'est différent.
Ça fait différent, c'est correct.
C'est un petit peu moins agaçant à la
longue. Oui, effectivement, une drill, là, c'est plus agaçant que ça.
Légèrement. Okay. Aujourd'hui, on consacre notre épisode, Jonathan, au chocolat. Parce que le chocolat, comme de quoi, tu sais, ça fait partie de l'alimentation de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas personne qui déteste le chocolat, sinon il est juste de mauvaise foi. on peut dire, en moyenne, là, chaque Canadien consomme 3,6 kilos de chocolat par année. C'est énorme, c'est l'équivalent de deux petits morceaux de caramel par jour. Pour en parler d'ailleurs, on reçoit aujourd'hui Pascal Daou, qui est chocolatier et propriétaire de la boutique 13 Chocolat, qui est située au 145 boulevard Saint-Joseph à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est les Halles, je crois.
Les Halles de Saint-Jean, oui.
Parfait. Ben bonjour, bienvenue avec nous.
Merci.
Tout d'abord, Pascal, d'où ça vient le chocolat?
Ben, le chocolat a quand même une histoire très, très vieille de base. Ça commence tout début quand Christophe Colomb, justement, a ramené des fèves de cacao en Europe. Eux, justement, en Amérique, utilisaient plutôt ça comme soit manger ça ou l'utilisaient aussi comme monnaie d'échange.
OK.
Lui, à place de... Il a ramené de l'or, oui, mais il a ramené aussi beaucoup de fèves de cacao que le monde commençait à manger ça tout seul.
Cru comme ça.
Cru de même. Okay. Mais le problème, c'est très, très, très amer. Le roi de France... Lui adorait ça. Il mangeait ça cru comme ça. Et comme la haute société aime ça, tout le monde doit aimer ça. Ouais, le monde commençait à manger ça, mais il n'aimait pas trop ça. C'est-à-dire, il commençait à sucrer ça un peu pour le couper un peu, pour couper un peu l'amertume. Après ça, avec les âges et tout, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, comme n'importe quelle alimentation, surtout en pâtisserie. La majorité des produits qu'on mange aujourd'hui, c'est des erreurs que, dans le fond, ça donnait des belles choses, comme le chocolat. Le chocolat qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils font en bouche, c'est une erreur. En tant que tel, ils voulaient juste faire du chocolat pour faire du chocolat, mais il était très granuleux dans le temps. Okay. Et l'affaire, c'est juste qu'il l'a oublié dans la machine. C'est-à-dire, à place de broyer ça finement, lui, il a tellement broyé que
ça a fait une pâte.
Ça a fait une pâte en mettant du sucre. Le sucre, c'est arrivé plus tard dans le chocolat. Ça a eu à peu près 200 ans d'évolution pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui.
Donc, entre le moment où ça a été découvert, si on veut, le chocolat proprement dit, le temps des rois, jusqu'à aujourd'hui, on parle de 200 ans
à peu près,
d'évolution. Bien, justement, rendons dans le détail. Là, on parle justement des erreurs et tout. La base, c'est quoi? Comment on fabrique ça, du chocolat, tu sais?
Bien, pour faire du chocolat, c'est comme une recette en tant que telle. C'est du beurre de cacao, du cacao et du sucre. Si on enlève un des ingrédients, c'est pas du chocolat. Okay. C'est comme dire que de la farine, c'est un gâteau.
Ouais.
Tout le monde sait que c'est pas un gâteau. Il faut mettre des œufs, il faut mettre du sucre, il faut mettre d'autres choses pour arriver à du chocolat. Donc, l'ingrédient principal du chocolat, c'est ce qui vient de la fève de cacao, qui vient du cacaotier. Il y a trois majeurs... arbres plus connus qu'on utilise pour faire le cacao. Il y a le criollo. Le criollo va faire des petites cabosses qui va faire un cacao très, très goûteux que le monde aime bien. Après ça, il y a le forestario. Le forestario va faire des très grosses cabosses, mais il va faire un cacao qui est moins goûteux. Habituellement, les grosses compagnies qui font du chocolat en grosse quantité puis ils ne regardent pas beaucoup la qualité, ils vont se tourner plus vers cette cabosse.
Okay.
Après ça, ils ont fait un mariage entre les deux, le trinitario. Le Trinitario ont les deux bons côtés des chaque. C'est-à-dire qu'ils vont faire un bon cacao plus que le Forestario, mais vont en faire beaucoup plus que le Criollo. Okay. C'est-à-dire, à partir de ces trois-là, ils vont faire des mélanges. Mais ces trois arbres-là peuvent pousser à peu près n'importe où, proche de l'équateur. C'est un arbre qui adore la chaleur, l'humidité, mais il n'aime pas le soleil. La logique là-dedans...
Fait bien de la chaleur, mais pas de soleil. C'est spécial, ça. Okay. C'est... Puis, t'as amené une fève de cacao... avec t'as amené une cabosse, c'est ça. Puis, je sais pas, est-ce qu'on va la prendre en photo?
Je l'ai prise en photo. Super. Et puis, vous allez voir, c'est quand même énorme. C'est sûr que là, je l'ai pas pris à côté d'une main ou d'un 25 cents, mais on peut dire que ça a...
C'est quand même...
Pratiquement, c'est presque un pied.
C'est quand même gros. Est-ce que tu connais la provenance de
cette cabosse-là? Pas de celle-là. Celle-là est plus décoratif.
OK.
Normalement, elle est plus ronde. Ça ressemble à un ballon de football, presque.
OK, parce que celle-là, elle est séchée.
Un peu ratatinée à cause qu'elle est séchée. C'est à peu près la grosseur d'une forestario.
OK.
Ça peut aller un petit peu plus gros que ça.
OK.
Mais à partir de ça, c'est ça. Ça vient de l'arbre, le cacaotier.
Oui.
Le cacaotier peut pousser jusqu'à 8 mètres, si je me souviens bien. Habituellement, il coupe à peu près à 6 mètres pour qu'il produise plus.
Oui.
Un arbre peut produire jusqu'à 100 000 fleurs par an.
100 000?
100 000
chaque arbre.
Puis une fleur va mener à une cabosse.
Pas nécessairement.
OK.
Mais chaque fleur va être ensemencée à la main. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre une fleur de l'arbre, elle peut venir du même arbre.
Oui.
Puis ils vont ensemencer chaque fleur pour avoir une plus grosse production. Habituellement, c'est les femmes qui vont s'occuper de ça. Plus, ils ont peut-être plus de patience que les hommes, je ne sais pas. J'en ai jamais fait encore.
Je pense que c'est plus parce que les mains sont plus petites, sont plus délicates. T'sais, je ne sais pas quelle est la grosseur d'une fleur de ça normalement. Mais...
je ne sais pas, c'est assez petit quand même.
Ben, c'est peut-être pour ça, les femmes ont des plus petites mains. Encore là, je spécule.
Ouais,
mais
c'est ça.
En gros, mais à l'époque, même pendant la guerre, là, on recule en arrière, souvent c'était les femmes qu'on choisissait et les enfants pour sabler l'intérieur des balles de fusil à cause qu'il y avait des petits doigts. On spécule, je ne sais pas.
Je crois que c'est la malnutrition aussi qui aide. Le monde a des doigts
là-bas, petits. C'est possible, surtout dans ces pays-là. C'est quoi les distinctions, mettons, dans la fabrication entre du chocolat, mettons, noir, au lait, j'imagine. Ça le dit au lait. Et puis, mettons, le chocolat blanc. T'sais, on part quand même d'une graine de chocolat noir.
Tout part de la même base. Donc, quand les pays le reçoivent, ils vont torréfier les fèves. Après ça, ils vont les broyer légèrement. Ils vont enlever la pulpe, la peau.
Ouais.
Après ça, avec les fèves, ils vont broyer ça jusqu'à temps que ça fienne une pâte. Ça va ressembler presque à du chocolat, mais en tant que tel, ça s'appelle de la pâte de cacao. Okay. C'est 100% pure barre de cacao avec le cacao, naturellement ensemble. À partir de là, c'est la base pour faire le chocolat qu'ils vont mettre le sucre. Okay. À partir de là, en mettant le sucre, ça s'appelle du chocolat noir. Okay. Après ça, ils vont rajouter du lait en poudre. En mettant du lait en poudre, avec les ratios de leur recette, ça va donner du chocolat au lait.
Okay.
Pour le chocolat blanc, c'est d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la pâte de cacao du début, ils vont la mettre dans une grosse presse hydraulique chauffée. En pressant, ils vont ressortir le beurre de cacao. Avec le beurre de cacao, ils vont mettre du lait en poudre, comme le chocolat au lait, le sucre, la vanille et l'étine de soya, de base. That's it.
Oui.
C'est pour ça qu'il devient une couleur blanche. C'est le lait et la matière grasse qui donnent la couleur blanche.
Puis l'étine de soya, c'est pour garder l'émulsion ensemble.
Oui,
c'est
pour garder la matière grasse et la matière sec ensemble.
Ensemble.
C'est pas obligatoire.
Okay.
De plus en plus de chocolats naturels qui essaient d'enlever les lécithines.
OK.
C'est sûr que ça l'aide, mais c'est pas obligatoire.
OK.
Ben justement, tu sais, j'aimerais apporter un aspect un peu plus nébuleux pour certains consommateurs. Justement, on parle du pourcentage de cacao. Exemple, quand je vais à l'épicerie, je vais voir souvent à la caisse, il y a les barres de chocolat Lindt qui sont là. Et puis, il y a différentes sortes, mais en termes de pourcentage, tu peux avoir celui à 75, 85. J'ai même vu 99% de cacao. Premièrement, ça nous indique quoi ça quand on achète une barre de chocolat à l'épicerie? Puis, comment on peut s'en servir? Tu sais, exemple, y a-t-il vraiment une clientèle pour un chocolat à 99% à manger ça comme ça? Tu sais?
Malheureusement, je dirais que oui, il y a du monde qui aime ça très, très, très amer. Rendu à 99%, c'est plus rendu chocolat, c'est rendu une pâte de cacao. À 99%, c'est il n'y a aucun sucre, donc ça redevient une pâte de cacao qui n'est pas... On peut pas appeler ça du chocolat. En pâtisserie, on va utiliser plus la pâte de cacao pour donner un goût chocolaté à une mousse, une crème fouettée ou quelque chose qu'on veut chocolaté. Si on mettrait du chocolat, il faudrait en mettre tellement qu'à un moment donné, on n'aura pas la texture qu'on voudrait.
Donc c'est là qu'on va utiliser la pâte de cacao.
La pâte de cacao.
Ou le cacao en poudre, ça peut...
Le cacao peut le donner, mais c'est sûr qu'on peut jouer entre les deux parce qu'en étant une pâte de cacao, il y a plus de matière grasse. Le beurre de cacao qui est naturellement dedans va donner un côté crémeux.
Donc, quand on parle de pourcentage, là, au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? Là?
Le 70 représente le beurre de cacao et le cacao. L'autre 30% représente le sucre, la laitine de soya et la vanille.
OK.
Donc, un chocolat 65, c'est 65% beurre de cacao, cacao 35% sucre, laitine de soya, et ainsi de suite. Pour chocolat au lait, par contre, c'est différent. Si on prend un chocolat au lait à 40%, on va prendre un chiffre rond, plus facile à calculer.
Ouais.
40%, c'est cacao, beurre de cacao. Il reste 60%. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui pensent qu'un chocolat au lait à 40%, c'est 60% sucre. C'est pas vrai, parce qu'en tant que tel, un chocolat au lait, on oublie, il y a du lait.
Ouais.
Donc, un chocolat au lait à 40%, il y a habituellement 20 à 25% de lait. C'est-à-dire, on est déjà rendu à 65%. C'est-à-dire, un chocolat au lait à 40% et un chocolat noir à 65% a autant de sucre. Okay. C'est juste que le chocolat noir va être plus gras parce qu'il y a plus de beurre de cacao.
Ben justement, la Suisse est très réputée, là, entre autres, pour, mis à part son fromage suisse, il est réputé pour son chocolat. Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Mais je crois que c'est eux qui ont pas mal poussé pour avoir un chocolat de meilleure qualité. Maintenant, de nos jours, on peut pas affirmer qu'un chocolat suisse, belge ou allemand ou français peut être de meilleure qualité. Même les Américains, maintenant, sont capables de faire un chocolat de qualité. Le savoir-faire a été transmis. Malheureusement, il y a même les Belges puis les Suisses qui sont supposément reconnus pour leur chocolat. Eux autres aussi font du chocolat composé. Du chocolat composé, c'est qu'à place d'utiliser du chocolat 100% pur beurre de cacao, ils remplacent ce beurre de cacao-là qui est très dispendieux par de l'huile hydrogénée, huile de palme et huile de coton.
Mis à part le prix, est-ce qu'il y a une autre raison qu'on ferait ça, de mettre des huiles dedans, des huiles hydrogénées déjà, sans partant?
C'est pas bon. Ben, ouais. Si j'utiliserais ce genre de chocolat-là, j'aurais plus de vie, ça c'est sûr. Ça serait bien plus facile à travailler.
C'est plus facile à travailler, OK.
C'est tellement plus simple. C'est un chocolat qu'on fait juste faire fondre. On met dans le moule. Tout est beau, il n'y a rien à faire. Okay. Tout est brillant. Mais c'est que ça laisse un côté gras en bouche qu'on n'est pas capable d'enlever. C'est pas goûteux, c'est pas mangeable.
Ouais.
Le chocolat pur beurre de cacao, pour le travailler, justement, il faut l'emmener à des certaines températures. Il faut le travailler soit par tablage ou par ensemencement. Mais il faut le travailler. C'est pas un chocolat qu'on peut juste faire fondre, on met dans le moule, puis tout est beau. Il y a beaucoup plus de travail qui vient derrière ça.
Ouais. Je suis pas quelqu'un qui adore faire des desserts, mais je me suis amusé quand j'étais dans le cours de cuisine. J'essayais de m'amuser avec le chocolat, puis effectivement, c'est tellement instable. On mettait le chocolat dans le bain-marie, puis là, premièrement... cuillère de bois, je pense que c'était le moins possible parce que ça donne le goût. Fait que là, on fait attention à ça. Ensuite de ça, là, il faut que tu ailles ton eau à frémissement. Faut pas que ça boue parce que si ça boue, ça devient trop chaud.
Ça risque de brûler le chocolat. Certains chocolats vont brûler à certaines températures.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment particulier là, à quel point c'est compliqué jouer avec le chocolat, de travailler ça là, vraiment. Là. Ça prend tout un artisan.
C'est ça. Le chocolat, il faut l'emmener à certaines températures précises. Qui est déjà prédit, en voulant dire qu'un chocolat noir va l'emmener à certaines températures, à part chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Mais ça m'arrive moins de plus en plus. J'ai un petit peu plus d'expérience. Des fois, ça veut juste pas. Il faisait soit trop chaud dans la pièce, soit que j'ai pas atteint la bonne température, j'ai pas descendu assez bas. C'est des erreurs, ça peut arriver. Ouais.
Quand ça arrive, parce qu'on s'entend, tu sais, moi, chez nous, je manque une batch de chocolat, puis ça m'est tellement arrivé souvent juste de faire de la fondue au chocolat. J'essaie de rajouter de la crème dedans, tu sais, je me dis, on va le crémer, tout ça. Finalement, ça pogne en pain, c'est fini. Puis là, à peu près, tous les invités qu'il y a chez nous rient de moi, tu sais, t'es cuisinier, puis t'es pas capable. Non, je suis pas capable de faire fondre le chocolat. On fait quoi quand ça arrive? Dans ton cas, tu dis, des fois, ça peut t'arriver ou.
Ben, ça, c'est la raison.
Là, c'est peut-être l'extrême, là, ce que je t'entends dire.
Ben, ça arrive, mais c'est que le monde. Comprennent que le chocolat, c'est une matière grasse.
Ouais.
Donc, il n'aime pas l'eau. L'eau va pas bien ensemble. C'est-à-dire, la raison pourquoi ça a figé, c'est qu'il y avait trop d'eau dans le mélange. Il fallait juste continuer à en mettre.
OK. C'est fallait juste continuer de mettre
t'sais,
la
on
crème.
On pense que, oh merde, mais dans le fond, c'est juste qu'il fallait en rajouter plus.
Ah ouais.
Mais là, le problème avec la crème, il y a beaucoup de matière grasse. Là, ça, à un moment donné, ça risque de se séparer.
Ouais.
Mais juste, on peut mettre juste du lait.
Okay.
À un moment donné, c'est sûr que ça va faire un pain, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de liquide.
Il faut juste en remettre, puis à un moment donné, ça va refondre.
Ça va refondre, ça va devenir une ganache. Okay. Moi, j'en mets tout le temps dans mon chocolat parce que quand je fais des fondus, justement, chez nous, ça m'en donne plus.
Ben oui.
Et deux, si on met juste assez, le chocolat va se tenir mieux sur le fruit.
OK.
Parce que j'aime ça avoir beaucoup de chocolat, je devrais dire fruits. C'est-à-dire, ça fait une, vraiment une ganache, puis ça rend mieux le fruit.
Je voulais t'amener sur un autre point, dans le fond, qui est intéressant. Moi, j'ai un beau-père qui est diabétique.
D'accord.
Puis, il aime beaucoup, malheureusement, le chocolat pour lui. Ce qui reste un problème. Fait que pour les gens qui sont diabétiques, là, puis je sais que ça doit être un quand même pas pire défi pour vous, les chocolatiers. Comment est-ce qu'on est capable de produire un chocolat qui est non sucré, en fait, mais qui goûte comme le chocolat conventionnel?
Mais de nos jours, maintenant, ils ont fait justement un chocolat pour les diabétiques. C'est un sucre qui ont été. Ils ont enlevé le sucre, le saccharose, qui est justement problématique pour les diabétiques. Ils l'ont remplacé par du maltitol. Le maltitol fait que ça donne un côté sucrant, mais ne fait pas monter le taux, la glucémie dans le sang.
OK.
C'est à prendre quand même en petite dose, moins de 100 grammes par jour. C'est quand même beaucoup, là, 100 grammes.
Mm-hmm. Ouais, quand même.
Mais un maltitol est moins sucrant que le sucre normal. Okay. Donc, va faire que le mien que j'ai justement à la chocolaterie est à 54%. Mais côté amertume, va ressembler plus à un 65-68%. Okay. Mais au moins, ils peuvent avoir accès à un chocolat qu'ils peuvent se permettre.
Puis pour vous, les chocolatiers, c'est plus dur à travailler avec ce...
Oui, le chocolat est beaucoup plus épais. Okay. Il est plus sensible. Mm. L'autre gros problème, le chocolat que moi, j'utilise habituellement pour travailler, il est en pistole, en petits morceaux, en petites pépites.
OK.
C'est un chocolat qui va fondre plus facilement si je veux le travailler. Problème avec cela sans sucre, il est en barre.
OK. En grosse barre.
5 kilos.
Wow.
Ça veut dire qu'il faut que je le hache.
Ouais.
Aïe.
Ça veut dire je passe 2 heures à hacher ça au couteau. J'ai mal aux mains, puis ça commence mal la journée.
2 heures.
Puis après ça, c'est ça, le chocolat est très épais et plus difficile à faire des choses avec.
Mm. Mais quand on fait une batch comme ça, c'est comme quand que tu reçois 5 kilos de chocolat, il faut que tu en fasses pour un bout.
C'est sûr que quand j'en fais, j'essaie de produire beaucoup de tablettes. Comme ça, j'ai pas besoin d'en faire chaque jour parce que c'est très demandant.
Ouais.
J'essaie de garder les prix bas parce que je veux que ça soit accessible pour tout le monde.
C'est quoi la durée de vie d'un produit comme celui-là ou en général d'une palette de chocolat?
Bien, un chocolat, il y a beaucoup de personnes qui ont peur tout de suite quand ça blanchit. N'importe quel chocolat, peu importe, dans les 24 heures à 48 heures, même ça peut jusqu'à 6 mois, va faire que le chocolat va durcir, mais il peut blanchir n'importe quand.
Okay.
Si bien travaillé, il est gardé à bonne température, il n'y a pas eu de changement de température drastique, capable de durer à peu près un an et demi.
Mm.
S'il est mal fait, dans les 24 heures, il peut commencer à blanchir. Okay. Dans les 5 minutes, il peut commencer à blanchir.
Mais quand c'est blanc, ça veut dire que c'est plus bon?
Non. C'est-à-dire, si vous prenez votre chocolat et qu'il est blanchi, puis vous le frottez avec votre doigt, si vous êtes capable d'enlever la partie blanche, c'est le beurre de cacao qui a surcristallisé. C'est-à-dire qu'il est encore bon.
Okay.
Si vous frottez, puis le blanc ne veut pas s'en aller, c'est le sucre qui a surcristallisé. Là, on va considérer que le chocolat est plus bon. Personne ne va mourir, c'est juste granuleux.
Ouais.
Chocolat blanc, par exemple, chocolat blanc ou chocolat au lait, c'est d'autres choses parce que le lait peut rancir à l'intérieur. Mais c'est vraiment un goûtant.
La culture de la fève là, de cacao, c'est très controversé dans le monde.
Oui.
Par exemple, en Afrique, là, il y a plus de 230 000 enfants, dont 15 000 qui seraient considérés comme des esclaves, là, qui travaillent dans les plantations de la Côte d'Ivoire, entre autres. Je sais que dans les années 2000, là, il y a les États-Unis qui ont mis en place un protocole là, qui s'appelle Arkin-Engel, j'espère que je le prononce bien, afin d'obliger l'industrie à mettre fin à ces pratiques-là d'enfants travailleurs. Par contre, je sais que l'accord est volontaire, puis c'est pas vraiment contraignant pour les grosses entreprises, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2018, la situation est encore la même là, dans le monde. Selon toi, ce serait quoi la cause de ça? Pourquoi est-ce que... on continue à encourager ce genre de choses-là?
Je crois que dans certains pays, justement, comme la Côte d'Ivoire, qui est, je crois que si je me souviens bien, qui produit à peu près le 1/3 du cacao mondial, lui, je crois qu'il s'en fout. Je crois qu'il veut juste avoir du profit. J'ai écouté quelques histoires là-dessus, des enfants qui pensaient se trouver des jobs, des choses de même. Dans le fond, ils enchaînaient à côté des arbres, puis c'est ça qu'ils faisaient le reste de leur vie.
Mmh. Le soir, la nuit, ils enchaînent pour les empêcher de se sauver. Là. Mmh.
C'est ça le problème. C'est sûr que de nos jours, les chocolatiers comme moi essaient justement de surveiller un peu ça. Moi, la majorité de mon chocolat vient justement de Barry Calbo, qui ont commencé justement, à place d'envoyer juste de l'argent, d'aller directement sur le terrain, faire des maisons, faire des écoles, pour aider justement les personnes qui connaissent même pas c'est quoi le chocolat, faire un produit, qui verront jamais le produit final, à avoir une meilleure vie. Mais c'est que il y a des compagnies qui s'en foutent d'où ça vient. Ils veulent juste faire de l'argent. L'argent, c'est plus important. Le travail pour les enfants, mon point de vue là-dessus, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure des vies pour des enfants. Qu'un enfant de 7 ans, 8 ans travaille avec son père à la force de ce qu'il est capable de donner, puis capable d'avoir de l'argent pour se nourrir, pour un jour peut-être, s'il veut faire d'autres choses, de pouvoir s'éduquer. J'aime mieux ça que voir un enfant qui est sur le bord de la route puis qui quête pour avoir quelque chose à manger que peut-être que pendant 3 jours, il n'y a rien à manger.
Ouais.
C'est pas le meilleur des mondes. Même, je trouve encore le chocolat équitable, je trouve que c'est pas assez. C'est pas encore équitable.
Il y a trop d'abus encore.
Parce que, si je me souviens bien, pour une tonne de cacao, en ce moment, sur la bourse, est à 2 300 $ le kilo. La tonne, excusez. Avec une tonne de cacao, on peut faire à peu près 2 à 3 tonnes de chocolat.
OK. Fait que...
C'est-à-dire qu'il y a une marge qui je trouve injuste. Mm-hmm. Je trouve qu'ils n'ont pas assez encore pour qu'est-ce qu'ils mettent dedans.
Ils ne reçoivent pas assez pour l'effort qu'ils mettent.
Ouais. Mais pour quelqu'un qui voudrait justement manger du chocolat plus équitable, y a-t-il un moyen, y a-t-il des certifications sur lesquelles on peut se baser en tant que consommateur pour choisir son chocolat pour que ça soit équitable?
Oui, je sais qu'il y en a. Mais encore là, c'est comme le terme bio aussi, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on pense que c'est bon. Mais comme je dis à tout le monde, parlez à votre chocolatier. Si c'est un vrai chocolatier puis qu'il dit qu'il est chocolatier, il devrait connaître ses produits, d'où viennent ses produits, qu'est-ce qui s'est passé avec. C'est la moindre des choses d'informer le monde, nos produits, d'où ils viennent, comment ils ont été faits et tout.
Ouais.
Demandez des questions.
Ben d'ailleurs, je sais que toi, tu veux aller vers ça, dans le fond, de faire la production de la fève jusqu'à la barre de chocolat. Là.
Oui, parce que habituellement, les petits qui fournissent en très petite quantité, eux, ils n'ont pas été achetés par des grosses compagnies. Mm-hmm. Si je me souviens bien, il y en a 5 grosses compagnies qui achètent à 95% du cacao mondial. En faisant ça, je peux savoir d'où vient le cacao. Je peux certifier que j'étais allé directement sur le terrain, j'ai vu que tout est beau. C'est sûr, c'est beaucoup de travail, mais ça va faire beaucoup de voyages. Ça va me faire sortir un peu. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à chocolaterie. mais c'est un de mes rêves, justement, de pouvoir aller. Il y a une couple de pays que j'aimerais ça aller voir. Mais le problème, c'est encore faire confiance. Puis l'autre, c'est beaucoup le langage. Je parle l'anglais et le français. Mais j'aimerais ça beaucoup aller en Tanzanie, Madagascar. J'ai même entendu au Japon qui commence à faire pousser du cacao. T'sais.
Ah oui.
Mais là, le nouveau pays qui est très en demande, c'est le Vietnam. C'est-à-dire, ça me ferait voyager. Je serais content.
Donc, eux autres vont commencer à fournir aussi le reste du monde en cacao.
Oui, mais c'est sûr qu'ils ne battront pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça a été une des raisons pour le chocolat a tellement monté, descendu.
Mm-hmm.
C'est que dans les années 90, ils s'écœuraient des cacaotiers. Ils ont tout brûlé.
Ah ouais.
Ça a fait monter le prix. Les cacaotiers sont fragiles comme arbre, c'est-à-dire qu'ils essaient de remplacer par du caoutchouc. Caoutchouc, c'est plus rentable, ça produit plus.
Ben oui.
Avec la Chine, l'Inde qui commence à avoir de plus en plus d'auto, ils veulent de plus en plus de caoutchouc, ça dit c'est plus rentable. Ça a fait monter beaucoup les prix. Mais là, depuis un an et demi, il y a beaucoup descendu aussi.
En terminant, on aimerait savoir là. Franchement, là, c'est quoi le secret de la caramel?
Ben, en tant que tel, la technique que moi j'utilise pour mettre du caramel qui est quand même liquide à l'intérieur, il y a plusieurs techniques parce qu'un caramel dur, quand il est fermé hermétiquement, donc à l'intérieur d'un chocolat, va devenir légèrement liquide, peu importe qu'est-ce qu'on veut.
Ouais.
Mais le caramel que moi je mets, c'est un caramel quand même mou. C'est qu'il faut le faire à un moule, c'est-à-dire on fait chemiser le moule, on donne une petite couche très mince sur le côté du paroi du moule. Après ça, je sens que ça fige. Après ça, je vais mettre le caramel. Le caramel, il y a plusieurs techniques. Soit qu'on le fait refroidir légèrement parce que habituellement, un caramel a beaucoup de beurre, beaucoup de matière grasse. Le chocolat ne devrait pas se mélanger avec le caramel, mais c'est un moule. C'est-à-dire, on met le caramel, on attend que ça sèche un peu, puis on referme avec du chocolat.
Mystère résolu. Vous l'aurez appris ici à la table d'hôte. Sur toutes ces émotions, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite après.
Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de La Table d'Hôte. Et pour tout savoir sur les sujets et les invités de la semaine prochaine, visitez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le @commercial Table d'Hôte QC en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission.
De retour à la table d'hôte après cette courte pause bien méritée après une première partie qui était très, très forte en information.
Ouais, très chargée.
On revient avec notre invité ici, Pascal Daou, qui est chocolatier et propriétaire de 13 chocolats. On va en apprendre un petit peu plus sur toi, Pascal.
Ouais.
Écoute, quand on lit un petit peu ton histoire, on se rend compte que t'es pas quelqu'un qui l'a eu facile.
Bien, j'essaie de dire que pas comme tout le monde a un peu son background en arrière. C'est sûr qu'avec les problèmes de santé que j'ai eu quand j'étais jeune et tout.
Mais c'est ça, parlons-en. Donc, quand tu étais jeune, tu as eu des problèmes de santé. Puis bon, aussi, je vois aussi que t'as décroché de l'école et tout. Puis c'est un peu le chocolat qui t'a fait un peu raccrocher à tout ça. Parle-nous donc un peu de ton expérience.
Bien, pas tout le monde le sait, mais en tant que tel, qu'est-ce que j'ai eu comme problème de santé à 16 ans? C'est que j'ai eu une opération cerveau. J'ai eu un anévrisme géant. Un anévrisme géant, en tant que tel, c'est juste une sorte de bulle qui se forme sur une artère, une paroi qui était plus faible. Il va faire une bulle, puis habituellement, ça explose et on meurt. La mienne a saigné, elle n'a pas explosé. Ça s'est quand même bien passé. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai perdu la parole. J'ai été obligé de réapprendre à parler français, anglais.
Okay.
L'écrire aussi. Ça, c'était encore plus difficile. Puis encore aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés. 18 ans plus tard, bordel, le temps passe vite. à marcher aussi, parce que j'ai une paralysie du côté droit. Je sens pas mon côté droit, c'est-à-dire le chaud, le froid, le toucher, la dextérité n'est pas revenue non plus à 100%.
Ouais.
Quand j'étais jeune, je voyais pas ça comme si c'était « Ah, c'est pas si grave que ça, je vais me faire opérer, puis la semaine prochaine, je vais aller faire du ski, je vais aller faire d'autres choses.
»
Je voyais pas la gravité de l'effet. C'est ça qui est un peu qui m'a fait passer un peu à travers de ça. Mais c'est plutôt vers les 22, 23, 24 que j'ai vraiment cliqué que j'aurais pu mourir. Là. Parce que juste à l'opération, j'avais 48% de survie. Puis après ça, ils ne savaient pas si j'allais être comateux, si j'allais être légume. C'était tellement gros l'anévrisme, c'est à peu près la grosseur d'une balle de golf dans un cerveau. Ça veut dire c'est quand même massif.
C'est énorme. Ouais.
Fait que tu as dit 48% de chance de survie. Ça veut dire que tu avais plus de chances d'y rester.
Ouais.
Que d'en survivre.
Oui, mais je ne savais pas quand ils l'ont fait.
Nope.
Mes parents le savaient, mais pas moi. Moi, j'étais un peu pas tout à fait là.
Ouais.
Donc, c'est ça qui m'a fait, justement, qui a fait beaucoup de problèmes à l'école. J'avais déjà de la difficulté en français à cause que le côté du cerveau qui c'était, c'est le côté parole français, et ainsi de suite. Donc, j'avais déjà de la difficulté en français, c'est encore plus après l'opération. Ça m'a fait retarder beaucoup l'école. En tant que tel, j'avais pas réussi à finir mon secondaire 5. J'ai essayé pendant presque 10 ans d'essayer de finir mon secondaire 5, mais le français ne voulait pas.
Okay.
Le temps que j'écrivais avec mon côté droit, j'oubliais déjà le reste de ma phrase, ça veut dire que ça allait nulle part. En mathématiques, c'est l'autre côté de l'autre hémisphère. Qu'est-ce qui est science, mathématiques, tout allait bien, mais je n'étais pas capable d'avancer en français. Ça veut dire que j'ai pas mal lâché ça. Ma mère m'a offert justement d'aller aider un ami parce que je faisais juste des petits boulots.
Okay.
Et puis, elle m'a offert d'aider un ami en France qui avait 4 enfants. Et son mari, lui, il partait 2 mois à travailler sur une plateforme pétrolière comme pâtissier. Puis, il revenait 1 mois. C'est-à-dire, pendant 2 mois, il était seul avec les 4 enfants. C'est-à-dire, j'étais allé l'aider à garder les enfants. Ça fait, par exemple, que j'ai pu l'aider à ouvrir une chocolaterie.
Lui, est-ce qu'il était chocolatier de profession?
Oui, c'est Amandine. Elle était venue au Québec, c'est là que ma mère et mon beau-père l'ont connue. Puis c'est elle qui m'a introduit beaucoup au chocolat, que j'ai tombé en amour avec le chocolat. Pendant longtemps, j'avais aucune raison d'être, d'aller à l'école, de faire les affaires. Mais quand j'ai touché vraiment le chocolat en France, j'ai capoté, j'ai adoré ça. C'était spécifique, je créais quelque chose à partir de chocolat, c'était fantastique. Mais mon amie en France, Amandine, me dit de faire quand même mon DEP en pâtisserie pour avoir une base en pâtisserie.
OK.
Encore là, il y a eu de la difficulté. Il fallait que je fasse une équivalence de secondaire 3 pour avoir un DEP. Mm. Eu des problèmes avec les professeurs. Un peu tête de cochon, savoir chez tout, et ainsi de suite.
Ah, c'est ça, l'opération. Ça, là.
Ça, ouais, c'est l'opération. Ouais, c'est tout ça. Le monde l'a eu, l'opération. C'est
ouais, c'est ça.
Donc, ça m'a fait... Je me suis cassé la main pendant que j'étais à l'école. C'est-à-dire j'ai obligé de lâcher l'école. J'ai été obligé d'aller avec un autre professeur. En tout cas, ça a duré 2 ans en total. Mais j'ai réussi quand même à avoir mon diplôme. Pour moi, il fallait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire j'ai réussi à me trouver un emploi d'une grosse chocolaterie à Montréal. Okay. J'ai travaillé là pendant 4 ans. Pendant que j'étais à Chocolaterie à Montréal, j'ai réussi à faire mon équivalence d'un secondaire 5. Okay. Je suis retourné un peu à l'école pour avoir ça. Mais après 4 ans, en 2014, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir la chocolaterie avec l'aide de la famille, ma copine. Je pensais que j'étais prête. J'aurais peut-être dû attendre un an, 2 ans de plus dans une autre chocolaterie pour pousser plus dans le domaine.
Pourquoi, selon toi, qu'est-ce que tu as appris, dans le fond, en l'ouvrant peut-être un peu trop tôt?
Bien, quand je commence quelque chose, j'aime ça avoir le plus de base possible. Mais le problème, en se partant en entreprise, il faut faire le plonge. Leap of faith.
Il faut se lancer. Oh, oui, vraiment.
Il faut pas... Du monde pense qu'ils ont assez d'informations, connaissances, et ainsi de suite. Ils puissent faire en business, puis ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas juste faire le chocolat, c'est toute la gestion qui vient en arrière, ouais. La paperasse qui vient en arrière, comment trouver des nouveaux clients, comment juste charger les taxes. Ça va de A à Z. Mm. Peut-être que j'aurais pu faire d'autres affaires. Je suis content quand même le parcours que j'ai pu faire. Je suis bien entouré quand même, comme famille, comme ami, et ainsi de suite. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'aide de ça. Mais se partir en business, ça se fait pas tout seul. Il faut être bien entouré.
C'est tout un plongeon. Puis, d'un certain sens, je pense qu'on n'est jamais prêt à 100%. Moi, si je me réfère à... Moi, ça fait un an, là. Moi, ça fait un an officiellement que j'ai une boutique ici. Puis, j'en ai appris des choses en un an, tu sais. Puis, je pensais être prêt. Un peu comme toi, là, tu sais. Je pensais être prêt. Puis, là, je me dis, OK, j'ai encore énormément de croûte à manger. Puis tu sais, c'est en toute humilité, là, à un moment donné, tu te dis, OK, je suis pas... je connais pas tout. Mais je pense qu'on connaîtra jamais tout, de toute façon. Mais c'est vraiment... À un moment donné, tu te dis, OK, regarde, je vais m'asseoir sur ce que je connais, je vais travailler avec ce que je connais, puis je vais continuer d'apprendre à chaque jour. Tu sais, je ne sais pas pour toi, moi, c'est
déjà d'être capable de le remarquer et de l'affirmer que c'est impossible d'avoir pensé à toutes les angles qu'il peut avoir. Ouais. Mon commerce, quand il est parti, moi, je pensais que j'allais une petite chocolaterie du coin, que j'allais faire 3 jours semaine en production, 4 jours en service à la clientèle en avant. Ces temps-ci, c'est 7 jours semaine production.
Ouais.
Je fais les deux dans la même journée. Il faut s'adapter, être capable de s'adapter à chaque circonstance. Un jour ou l'autre, vraiment, si on veut aller vraiment dans le domaine, il faut être poussé professionnellement, mais connaître son domaine. C'est pas un pâtissier qui va se partir d'une chocolaterie. C'est vraiment un chocolatier qui va se partir d'une chocolaterie parce que c'est pas le même domaine. Il y a du monde qui vont le faire quand même, mais les chances que ça lâche, que ça fonctionne pas...
sont plus grandes.
Maintenant, c'est 75% des entreprises dans les 3 premières années, l'âge ne fonctionne pas.
Ouais.
Et 90% dans les 5 premières années ne fonctionnent pas. C'est de l'argent qu'on perd, qui peut détruire des vies, des familles même. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y en a qui ne feront jamais le saut. Si on veut vraiment y aller, il faut essayer d'être le mieux entouré.
J'ai cru voir que dans ta vie, le chiffre 13 avait quand même une signification particulière en général. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, c'est que je riais tout le temps parce que je voyais beaucoup le chiffre 13. C'est la copine de mon frère, ma belle-sœur, qui a dit « Ben pourquoi tu n'appelles pas ta chocolaterie 13 chocolat? » Parce que en tant que tel, quand j'ai fait mon cours de pâtisserie, mon DEP en pâtisserie, mon numéro de coffre d'outils, c'était le numéro 13. Puis depuis ce temps-là, je vois des 13 partout. Genre, à chaque fois que je vois quelque chose, que je compte quelque chose, ça arrive à 13. C'est-à-dire, mon coffre était numéro 13, ma mère est née un 13, elle s'est mariée avec mon père un 13, elle s'est divorcée avec mon père un 13, mon père s'est remarié un 13, j'ai connu ma copine en 2013, elle a 13 lettres dans son nom, notre date de fête est un 13. Même le local qu'on a en ce moment, c'est local 120, mais les concierges l'appellent le local 13 parce qu'il y a un 13 sur la clé, puis ils ont aucune idée d'où vient le 13 sur la clé. C'est-à-dire, c'est toutes des choses comme ça. À chaque fois qu'on compte quelque chose, ça arrive à 13, c'est fou. C'est pas chanceux, c'est pas malchanceux, c'est juste présent. Ma grand-mère, elle disait que, elle faisait de la numérologie, puis elle disait que le chiffre 13, c'est pas un chiffre malchanceux. C'est un chiffre de renouvellement. Et je trouve que ça s'applique bien à moi parce que j'essaie tout le temps de renouveler un peu les produits. Parce que tout le temps faire la même autre affaire toute la journée, c'est pas mon fort. Donc, j'essaie de sortir de nouvelles textures, des nouveaux goûts, des nouveaux décors, des nouveaux produits. Puis, je m'amuse avec ça, à essayer de trouver des produits locaux si c'est possible. Pendant longtemps, je disais qu'on n'aura jamais de citron ou de mangue ou ainsi de suite au Québec. Mais là, maintenant, il y a un nouveau producteur de citron, d'agrumes... plus haut de gamme au Québec, à Laval, au citrus, si je me souviens bien. Puis je trouve ça fantastique parce que c'est des produits maintenant qu'on n'aurait jamais pu penser avoir locaux. J'ai déjà écrit un peu au citrus, justement, pour voir leur prix et voir si je peux aller voir leur plantation. Moi, je trippe là-dessus. Ça, j'aimerais ça y aller. Mais j'ai pas le temps ces temps-ci parce qu'on prépare pour Noël.
Oui, effectivement.
Mais c'est quand j'aurai le temps, j'aimerais ça aller voir ça. C'est tout ce qui est alimentation...
Noël, est-ce que c'est votre plus grosse fête de l'année?
Non. Le plus gros... parce que pour le chocolat, Noël, Saint-Valentin, le chocolat, c'est une option. C'est-à-dire, oui, on sort de tout, mais chocolat, c'est Pâques.
Ouais.
Et c'est pas une option. C'est-à-dire, le chocolat à Pâques, c'est très gros.
Avec ta chocolaterie, est-ce que tu as des projets futurs dans les prochaines années? Là, on parlait un peu hors micro, là, on avait parlé peut-être que tu regardais, même dans le premier segment, là, que tu regardais pour aller travailler plus à partir de la fève.
C'est ça, produire moi-même. Déjà, je produis 98-99% de mes produits.
OK.
Mais je suis rendu à un état qu'il faut que je grossisse, puis... J'aime ça, essayer des nouvelles choses et produire de plus en plus mes choses, mes matières premières.
Ouais.
Là, je suis entre les deux. C'est soit je rouvre une deuxième chocolaterie, soit que je déménage, ou à date, ça s'en va par vraiment faire... en anglais, ça s'appelle « bean to bar ». C'est directement aller chercher des fèves ou ainsi de suite, comme on le disait plus tôt. Je voudrais faire justement importer des machineries pour créer ça parce que ça se fait pas avec un rouleau à pâte.
Non, on s'amuse avec ça.
Et il faut de la machinerie. C'est de l'investissement. C'est beaucoup d'argent qui vient en arrière de tout ça. Beaucoup de savoir-faire à apprendre. Mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup de plus en plus. À chaque fois que j'en parle, ma blonde est un peu curie, j'en parle. Mais je veux commencer à créer beaucoup plus mes chocolats, donner ma personnalité. Puis jouer beaucoup avec les saveurs d'un peu partout dans le monde. Mais je voudrais peut-être ouvrir justement cette place-là pour le Bean to Bar, mais aussi pouvoir donner des cours.
OK.
Donc, pendant que je fais du chocolat, ça va être après de se faire, c'est dans une machine. J'ai pas grand-chose à faire pendant qu'elle tourne. Moi, je préfère inviter une couple de 6, 8 personnes, 10 personnes, faire des cours de pâtisserie.
Ouais.
Que ce soit faire de la pâte feuilletée, à une mousse au chocolat ou à travailler le chocolat.
Parle-moi pas de pâte feuilletée. J'en ai trop fait dans mon cours de cuisine, je suis plus capable de
voir
ça.
Mais tu parles de formation, y a-tu des écoles professionnelles où est-ce qu'on peut apprendre à devenir chocolatier au Québec?
Oui, il y a des cours qu'on peut prendre au privé, mais on parle de 250 à 500 $ le jour de formation. C'est des cours de 1 à 3 jours, mais c'est... On va plus apprendre des matières, comment faire des ganaches, comment faire des crèmes glacées, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui va vraiment faire devenir vraiment chocolatier. C'est vraiment travailler dans une chocolaterie. Comment faire... Là, dans le petit cours qu'on va faire, ils vont te montrer comment faire une ganache à la fois.
Okay.
Mais dans l'industrie, let's go, il faut produire, il faut faire 10 ganaches, tu as 2 heures pour les faire. Ben, let's go, il faut que tu t'arranges à faire les affaires. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile pour un Québécois de devenir chocolatier.
Un Québécois qui voudrait apprendre le métier de chocolatier, tu lui recommandes quoi?
Il y a plusieurs chemins qu'il pourrait prendre. Le plus facile, c'est de trouver un contact en France. Parce que France, c'est parce qu'ils parlent la même langue, mais qu'ils peuvent aller directement travailler en chocolaterie.
Okay.
Ils vont être plus ouverts parce que les Québécois et les Français s'aiment bien entre eux. C'est pas la même mentalité, par exemple, en France. Les autres sont beaucoup de la vieille école. Mais tant qu'on montre aux propriétaires qu'on est passionné, qu'on veut apprendre, qu'on ne veut pas lâcher, n'importe qui est passionné par son domaine, s'il voit ça, il va y donner quand même sa chance.
Mais toi, c'est-tu quelque chose
de... travail.
Ouais, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi, de, ouais. de donner des cours aussi au Québec?
Au lieu de que quelqu'un aille en France...
Parce que tu dis que les gens n'ont pas d'expérience ici en ouais. chocolaterie.
Ben,
est-ce que tu voudrais être mentor pour ces gens-là?
Ben, ce serait plus des cours pour personnes qui seraient intéressées par le chocolat pour faire du chocolat chez eux, pas pour côté professionnel.
Okay.
J'ai pas l'expérience encore au niveau. Je peux aider des professionnels qui peuvent partir en business, mais vraiment pour former de A à Z quelqu'un qui n'a aucune connaissance là-dedans, on parle d'un an, un an et demi, deux ans.
En terminant, t'es vraiment quelqu'un qui est hyper déterminé. Puis t'es un excellent exemple de détermination. est-ce que t'aurais un message à livrer aux jeunes, tu sais, des fois qui cherchent dans la vie ou qui... Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Là, qui...
Ben, un des gros problèmes que j'ai eu quand j'étais à l'école, c'est que j'allais à l'école pour aller à l'école. J'avais pas de but. Juste leur dire que il y a quelque chose d'autre après ça. C'est pas juste ça. C'est pour arriver à un point. Sois passionné par qu'est-ce que tu veux faire et comment tu peux aider qu'est-ce qui t'entoure pour aller vers un meilleur lendemain, un meilleur monde pour tout le monde.
Philosophique.
Mais un peu philosophique. Mais...
Comme ouais. le dicton le dit, si tu aimes ton travail, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Pascal Daou, merci énormément d'être venu à notre émission
beaucoup.
Aujourd'hui.
Un plaisir. Merci beaucoup d'être l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. Je rappelle que tu es chocolatier et propriétaire de 13 Chocolats qui est situé au 145 boulevard Saint-Joseph à Saint-Jean-sur-Richelieu dans les Halles Saint-Jean. Donc, merci encore d'être prêté au jeu.
Merci.
Et puis, Jonathan, on se revoit la semaine prochaine.
On va se revoir la semaine prochaine. Je ne sais pas où encore, mais on va se revoir la semaine prochaine.
On ne sait pas où. C'est toujours une surprise. D'ailleurs, on vous invite à aller sur notre page Facebook pour laisser un commentaire. Et puis, si jamais vous avez iTunes, allez nous donner 5 étoiles. Ça donne un méchant bon coup de main.
Oui, et voilà.
Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une bonne semaine, bon appétit et à très bientôt.